Radio Éthique.
Écoute la planète.
Chaque jour, un tête-à-tête sur la planète, c'est l'invité de Radio Éthique.
Il a été responsable du programme Pêche durable au sein du WWF durant 4 ans. Aujourd'hui, il tente une nouvelle aventure, devenir marin-pêcheur. Pascal Marcadji est allé à la rencontre de Charles Bren en Bretagne.
Charles Bren, on dit bonjour à un pêcheur ou à quelqu'un du WWF?
Je suis marin-pêcheur à plein temps, avec des accointances dans les milieux évidemment environnementaux ou scientifiques. Mais aujourd'hui, je suis 100% marin-pêcheur.
Vous êtes devenu marin-pêcheur après une formation?
Alors j'ai quitté le WWF en mai 2011 et j'ai repris une formation au lycée maritime de Paimpol pendant les 6 mois d'hiver 2011-2012 afin d'acquérir le capitaine de sang qui permet de diriger les petits bateaux de pêche.
Saint-Quay-Portrieux, on y est aujourd'hui parce que vous avez votre bateau en maintenance ou bien c'est un peu la côte d'attache, la Bretagne Nord?
Alors ma côte de cœur, c'est le Finistère Sud, donc rien à voir avec la région où nous sommes aujourd'hui, mais des accointances amicales et un projet d'un premier bateau avec un ami m'ont conduit dans cette région et aujourd'hui c'est là que je travaille et c'est là que je me plais, que je me suis installé.
Comment est-ce que le projet a germé?
Oula, alors je pense que ça remonte à très 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 loin. Je pense que c'était déjà une passion de gamin, la pêche. Après, avec la famille dans laquelle j'ai grandi, c'était pas forcément une trajectoire classique. Donc j'ai fait des études, j'ai fait l'agro, où je me suis spécialisé dans les questions de pêche. Mais sans jamais quitter ce milieu-là, finalement, derrière, en faisant différents métiers, en travaillant à Rungis pour vendre du poisson, dans cette région, dans les Côtes d'Armor, aussi pour vendre du poisson à destination de la grande restauration. Après dans un bureau d'études, puis enfin au WWF. Mais j'ai toujours, pendant ces années-là, embarqué sur des bateaux, j'ai toujours eu des contacts et des amitiés avec des marins pêcheurs. Et puis arrivé 30 ans, on sent que son dos va pas forcément si bien que ça, que si on veut faire son rêve de gosse, c'est maintenant ou jamais. Et puis des gens de bons conseils aussi, des deux camps, hein, que ce soit du côté ONG, même amicaux ou pêcheurs, ils m'ont dit mais pourquoi pas. Et puis ça m'est venu l'année dernière, et puis depuis... Je pense que je ne regrette pas une seconde ce choix.
C'est vraiment le rêve de gosse avant même la démarche.
J'étais fasciné avant tout par les hommes qui allaient sur l'eau. Et ensuite, j'ai compris qu'il fallait essayer d'être malin dans la démarche pour pouvoir préserver et les emplois à la mer et l'environnement. Mais je crois que c'est avant tout une histoire d'homme. Après, l'environnement, c'est du greffé derrière. Et c'est vraiment le métier qui me fascinait avant tout.
Le choix de la région.
Alors, on est aujourd'hui en baie de Saint-Brieuc. Il y a plusieurs éléments... pour ça. Déjà, c'était une région où j'appréciais certaines démarches, notamment un peu plus haut, il y a une réserve pour les homards, où il y a une réflexion depuis longtemps, en fait, sur une stratégie de réflexion depuis longtemps sur certaines espèces. Alors, c'est pas parfait comme partout, mais il y a des éléments intéressants. Et surtout, la rencontre avec un ami qui était déjà marin-pêcheur ici, et avec qui on a décidé il y a un an d'acheter un bateau ensemble et de se lancer dans l'aventure il y a maintenant 8 ou 9 mois.
Et c'est cher un bateau?
Alors ça dépend, ça peut valoir très 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 cher, de l'ordre de plusieurs centaines de milliers d'euros, mais nous on a préféré investir dans un petit bateau, on privilégie la qualité à la quantité, on n'avait pas de toute façon pas les moyens d'acheter un gros bateau, mais c'était pas l'objectif. Et notre bateau fait 7,70 m, c'est un vieux bateau en bois qui a été construit dans un vieux chantier naval qui n'existe plus à Paimpol, qui est très polyvalent. On peut donc faire plusieurs techniques et le peu qu'on ramène, on essaye nous de le valoriser par des circuits un petit peu différents. Parce que si on déposait tout à la criée de manière classique, on n'arriverait pas à en vivre.
La criée en Bretagne comme en Méditerranée, c'est difficile d'en vivre les petits pêcheurs.
Les criées, alors ça dépend.
Mais qu'est-ce que vous pêchez d'abord?
Voilà, alors nous on est axé sur plusieurs espèces. Alors l'hiver c'est principalement la coquille Saint-Jacques, hein, comme traditionnellement dans la baie de Saint-Brieuc. Et l'été, alors, on a plusieurs engins qu'on met en place. Donc on a des casiers pour les crustacés, donc notamment les homards, même si cette année il n'y en a pas eu beaucoup. Et après, ce qu'on travaille sinon c'est à l'hameçon, donc à la ligne ou à la palangre. Et là on travaille surtout le lieu jaune et le bar. Et le reste de l'année on essaye de trouver d'autres appuis sur les dorades, sur le congre ou sur d'autres espèces qui sont un petit peu moins à valeur ajoutée un peu moindre, mais qui nous permettent nous de tenir toute l'année.
Il y a toujours du poisson quand vous allez pêcher ou il vous arrive de trouver qu'il n'y en a pas assez?
Alors moi la chance que j'ai c'est que j'ai pas le recul pour avoir connu les années fastes, donc j'ai pas vraiment de point de référence. Après c'est sûr qu'on a quelques difficultés, que les anciens nous disent qu'on trouve moins par exemple cette année de homards et de bars que les différentes saisons. Les aléas ici sont notamment aussi environnementaux. La coquille Saint-Jacques, elle est assez encadrée, même si c'est pas parfait. Mais on voit bien que suivant les années, s'il n'y a pas la bonne courantologie, les bons sédiments, on ne maîtrise pas tout à fait d'ailleurs tout son cycle, et bien là on s'aperçoit qu'en ce moment elle se raréfie. C'est pas encore catastrophique, mais on voit bien que vu que les décisions de pêche sont calquées sur les avis scientifiques ici, là on sait que l'année prochaine par exemple on aura 20% de coquilles Saint-Jacques de moins à pêcher. Donc voilà, c'est sûr que c'est pas les années fastes, mais je suis positif et je suis persuadé qu'avec une bonne gestion et si l'environnement côtier se dégrade pas trop, donc c'est qu'on arrive aussi à gérer tout ce qui vient de la terre, gérer notamment les pollutions, on arrivera à avoir des années un petit peu plus faciles d'ici, j'espère, qu'une petite décennie.
Et les coquilles Saint-Jacques n'ont pas encore diminué de taille ou bien les bars non plus ?
Alors, les tailles, non. Sur le bar, on se pose des questions. Après, on n'a aujourd'hui aucune clé parce qu'on a l'impression qu'il manque certaines classes d'âge. Donc, alors, ça peut être un facteur géographique, c'est-à-dire que certaines classes d'âge se trouvent à différents endroits. Mais c'est sûr que le bar, on a vraiment aujourd'hui une impression de raréfaction qui n'est pas confirmée par les scientifiques. Mais moi, je suis investi notamment dans l'association des ligneurs de Bretagne. Donc, on est plus de 150 à pêcher le bar uniquement à l'hameçon autour des côtes bretonnes. Et dans différents endroits de la Bretagne, on s'aperçoit, on a une réelle impression de raréfaction. Donc nous, on demande depuis longtemps un encadrement plus strict. On aimerait bien que les grands chalutiers pélagiques freinent un peu parce que c'est clairement des prélèvements démesurés à une période de l'année où le bar se reproduit et surtout qui vendent très peu cher et qui, à notre sens, met en danger l'avenir de la ressource.
Justement, on va y venir, cette plateforme de pêcheurs que vous avez lancée en ligne et que l'on peut signer. Vous avez fait un petit peu la tournée des popotes pour rassembler tout le monde. Et est-ce qu'on rassemble facilement les petits pêcheurs ?
Alors, je crois que c'est vraiment une arlésienne. C'est quelque chose, moi, j'ai entendu parler depuis très longtemps, l'idée de rassembler la petite pêche artisanale en France. Et effectivement, c'est difficile. Il y a plusieurs raisons à cela. C'est qu'elle est très diverse. Alors, il a fallu la catégoriser, essayer d'imaginer à quoi ressemble réellement la petite pêche artisanale partout en France. Donc, on a réussi, nous, à peu près, à dessiner les contours de ce qu'elle est. Et ensuite, l'énorme différence, c'est que ce sont souvent des communautés littorales isolées et spécifiques. Et comme, nous, c'est une des règles pour adhérer à notre plateforme, c'est que l'armateur du bateau doit être lui-même embarqué sur le bateau. Et bien, à la différence des gros armements industriels, il n'y a personne à terre pour faire le boulot, pour faire de la communication, pour faire de la défense juridique ou politique. Donc, nous sommes des personnes qui ne sommes pas habituées à ça, à se défendre. Donc, grâce à plusieurs associations existantes, déjà, je pense au syndicat des petits métiers du Languedoc-Roussillon, l'association des ligneurs de la Pointe de Bretagne, le soutien aussi des réseaux de pêcheurs qui ont été contactés par différentes ONG dans le passé, on a réussi à se regrouper l'hiver dernier, à discuter de l'éventualité de ce projet-là. Et le fait que l'émergence de ces deux grosses associations qui couvrent déjà quasiment 500 bateaux, bah, soit dynamique et soit motivé pour ça, bah, ça a été beaucoup plus facile. Et aujourd'hui, on a lancé l'association et on espère recruter beaucoup, beaucoup de monde. On aura une grande vague de recrutement à la rentrée, parce qu'effectivement, juillet-août, pas forcément la meilleure période pour parler aux pêcheurs, parce que généralement, c'est une période où ils travaillent beaucoup, beaucoup. On espère qu'en septembre, on arrivera à contacter un maximum de personnes et à rassembler. Et j'oublie pas de dire aussi qu'on a beaucoup de liens et a priori déjà des contacts sérieux avec des pêcheurs outre-mer qui eux aussi sont largement oubliés, les petits pêcheurs outre-mer sont largement oubliés dans la représentation française actuelle.
Alors sur cette position justement, vous êtes pêcheur d'abord, vous avez quand même l'étiquette ONG. En Méditerranée, ça coince ce genre d'image.
Ça coince un peu partout. C'est vrai que généralement aussi, c'est un manque de connaissances. C'est souvent des personnes, et des deux côtés, hein, là je jette la pierre nullement aux pêcheurs. Je pense que certaines ONG aussi feraient bien d'aller mettre les pieds sur le pont d'un bateau. C'est surtout l'inconnu. Alors on stigmatise, alors on va caricaturer l'autre. Et c'est vrai que sur les quais, quand j'entends que les écolos sont forcément des Parisiens bobos qui n'ont jamais vu le moindre hameçon ou le moindre filet et qui sont malades en mer systématiquement, ça me fait un petit peu mal parce que au-delà de moi, j'en connais plein qui embarquent souvent, qui ont des relations avec des professionnels. Donc je pense que l'objectif aussi de cette plateforme et de ma démarche, c'est de rassembler les deux camps et je pense qu'il y a il y aura forcément des points durs. C'est évident qu'une ONG ne voit l'aspect gestion des pêches que par la sauvegarde de la ressource. Et certaines périodes de l'année peuvent être très très délicates économiquement pour le pêcheur et qui lui va mettre cet aspect un petit peu derrière le temps de passer la difficulté. Donc hormis ces points chauds, mais qui à mon avis peuvent être compris et à long terme peuvent être adoucis, à mon avis il y a tout pour s'entendre. Donc que les gens se parlent, que les gens se rencontrent. C'est pour ça que l'information doit circuler dans les deux camps. J'ai l'impression que souvent sur les quais que l'information ne va pas jusqu'aux pêcheurs de base, j'allais dire pêcheurs effectifs, que les sphères de représentation dans certains endroits se gardent de l'information et préfèrent stigmatiser et simplifier pour dire que les ONG sont des horribles libéraux écolos qui veulent que Total investisse les mers pour pouvoir retirer du pétrole et tuer la petite pêche. Ce qui est en tout cas en France absolument pas le cas.
Le vrai souci, c'était Bruxelles. Et là, c'est vraiment un dialogue de sourds entre les petits pêcheurs et la réforme de la pêche.
Mais on revient sur le problème d'organisation. À Bruxelles, ce que la commissaire et les députés européens et le Conseil des ministres a comme interlocuteur au niveau pêche, ce sont les permanents, donc des salariés qui ne sont pas pêcheurs, des énormes organisations de représentation de la pêche. Je pense à Europêche, à Euromed. Il y en a plusieurs en Europe et qui sont représentées parce qu'elles ont les moyens et qu'elles sont organisées avec des moyens considérables pour défendre la pêche. La petite pêche, elle, n'a pas les moyens. Un patron qui va aller à Bruxelles se faire auditionner va perdre sa journée de pêche et payer son billet. Donc, c'est quasiment impossible aujourd'hui de faire ça. Donc c'est pour ça qu'ils sont oubliés. C'est pour ça que les enjeux de la petite pêche artisanale sont rarement pris en compte et rarement défendus, même rarement entendus. Et j'espère que la plateforme qui a déjà un écho méditerranéen, parce qu'une plateforme de ce type existe au niveau méditerranéen, et nous avons déjà des contacts avec notamment nos amis anglais qui ont une association pareille des petits bateaux, qu'à terme on ait une structure et qu'on arrive à trouver des financements pour faire vivre une structure européenne qui puisse faire savoir quelles sont les préoccupations et les enjeux au niveau bruxellois de la petite pêche artisanale et de sauver les emplois de la pêche la plus durable qui soit.
Comment ça se passe, grosso modo, une journée d'un pêcheur? Enfin, la journée du pêcheur, Charles Brenne.
Ce qui est assez sympa, c'est que c'est jamais pareil, la journée d'un pêcheur. Déjà, la grande différence de tout ce que j'ai connu avant, on est ultra tributaire de la météo. Surtout quand on a un petit bateau comme le mien, on ne peut pas se permettre de sortir n'importe quand. Donc déjà, ça, que ce soit la météo ou les horaires de marée, conditionne totalement mon horaire de départ, si je pars, et mon horaire de retour. Donc, c'est jamais les mêmes horaires. Déjà,
il y a la marée ici.
Ah bah ici, elle est conséquente et sur les métiers qu'on pratique, en plus, elle est à prendre en compte parce que suivant les heures de marée, les coefficients, il y a plusieurs techniques qu'on ne peut pas utiliser parce que la mer, enfin, les courants vont trop vite. Donc effectivement, il y a tout ça à prendre en compte. Donc tout ça fait que ma journée n'est jamais la même, parce que, du moins au niveau des horaires. Et ensuite, on a plusieurs méthodes de pêche. Donc suivant la saison ou la période, on va utiliser différents engins. Donc ça ne se ressemble jamais. Une journée où on va relever une centaine de casiers ne ressemble pas à une journée où on va mettre 200 ou 300 hameçons à l'eau pour pêcher le bar, ou encore une journée où ce qu'on fait nous assez régulièrement avec mon ami associé, pêcher à la canne à pêche uniquement, notamment le lieu jaune, où là on va passer 10-12 heures durant debout à pêcher le lieu à la canne. Et donc c'est toujours différent, à nous de nous adapter aux conditions, est-ce que les poissons sont là, lesquels sont là, et en fonction de ça on a une journée qui ne ressemble jamais à la veille et rarement au lendemain.
Où est-ce que vous vendez ensuite?
Alors on essaye, nous, de sortir un petit peu de la commercialisation classique. Si on n'a pas le temps, si c'est la course, on va vendre à la criée comme tout le monde. Mais là, on sait qu'on aura, malgré la valorisation, parce que nous, comme on est adhérent de l'association des ligneurs, tous nos poissons ont une étiquette, donc sont valorisés, sont traçables. N'importe quel acheteur peut savoir quel bateau, que c'est notre bateau qui a pêché ce poisson. Malgré cela, les prix restent très, 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 très peu élevés et on aurait de grandes difficultés à vivre si on passait tout en criée. Donc on a essayé de développer plusieurs systèmes. C'est encore au départ, hein, mais on a quelques pistes. On travaille avec quelques restaurants de la région. Mais c'est pareil, on peut travailler qu'avec des restaurants, on va dire, de qualité assez, assez haute et surtout qui sont assez tolérants parce qu'on n'a clairement pas de régularité dans les apports. On ne peut pas calibrer les poissons. Donc il faut, et on a trouvé au moins un ou deux restaurants qui travaillent qu'à l'ardoise. Donc il n'y a pas de menu, les plats changent tous les jours et qui s'adaptent à ce que leurs différents fournisseurs peuvent leur fournir, mais qui ont une relation sincère avec le produit et les producteurs.
Vous arrivez à en vivre ?
Pour l'instant, non, mais c'était un peu prévu. On savait qu'on aurait une première année difficile. Mais grâce à ces petits restaurants, on est en train de développer aussi de se rallier avec des AMAP et des ruches, qui est une nouvelle aussi démarche de commerce local. On a aussi des contacts avec des restaurants parisiens et un intermédiaire qui est très très sensible à la cause environnementale et notamment qui s'est révélé très actif sur le maraîchage et avec qui on travaille aujourd'hui notamment sur les coquilles Saint-Jacques et qui lui va nous permettre de sortir un peu la tête de l'eau sur certaines espèces, notamment la coquille Saint-Jacques. Donc on espère qu'à terme, quand nos réseaux seront vraiment bien, bien arrêtés et que nos techniques et nos coins de pêche seront mieux connus et plus régulières en apport, on arrivera à en vivre. Notre calcul, c'est qu'on n'est plus si loin de ça. A priori, la première année, pour tout pêcheur, elle est compliquée. Alors encore plus pour un petit bateau. Donc on savait, ça pourra pas durer comme ça tout le temps, mais a priori, ça devrait s'améliorer d'ici quelques mois.
Et votre bateau futuriste alors ?
Alors ça c'est le parallèle, c'est en parallèle de cette activité, et c'était déjà une réflexion qu'on avait avec plusieurs personnes au niveau environnemental, mais pas que, j'ai eu aussi des grands débats avec des pêcheurs notamment méditerranéens, et Christian Descugis en particulier à Saint-Raphaël. J'ai eu l'envie d'imaginer et de décrire qu'est-ce que serait à mes yeux un bateau de pêche environnemental ou un bateau de pêche du futur, mais pas qu'environnemental parce qu'il y a une donnée bien évidemment écologique, il y a évidemment l'énergie et la conception, donc il y a plein de volets, mais on a voulu rajouter à ça le volet économique et le volet social qui sont complètement indissociable du projet. Donc aujourd'hui, c'est un projet uniquement sur le papier. On y travaille maintenant. J'ai rassemblé autour de moi une petite équipe, un architecte naval, deux ingénieurs, un mécanicien. On a des soutiens de notoriété relevés, comme Isabelle Autissier et Julien Andrieux qui suivent le projet et qui nous appuient fortement. Aujourd'hui, on a donc imaginé un trimaran, donc un bateau qui puisse supporter facilement une voile et avancer, pas uniquement, mais facilement grâce à la voile, sans avoir de l'agite qui permet aux pêcheurs de pouvoir travailler. On travaille sur une pile à combustible, donc un moteur à hydrogène, où l'hydrogène serait synthétisé à terre par les énergies marines. Donc on aurait vraiment zéro CO2 et zéro nucléaire. Donc a priori, le bateau le plus propre qui soit en énergie. On travaille sur l'éco-conception, donc sur une coque en fibre de lin, qui serait produite a priori en Normandie, où sont basés mes associés sur le projet. Donc voilà, on a toutes ces idées-là. On a un travail sur le partage de données scientifiques. On a conçu le bateau pour qu'il y ait forcément une place à bord disponible pour un scientifique, pour un jeune en formation, pour un marin qui voudrait, pourquoi pas, se mettre à ce type de pratique, mais même pour accueillir des politiques ou des écolos qui ne connaissent pas forcément parfaitement le métier. Donc il y a aussi cet aspect partage des informations, partage des savoirs qui nous tient à cœur, et bien évidemment l'aspect économique, et donc tout ce qu'on fait déjà aujourd'hui, travailler sur les filières courtes et valoriser ces produits qui sont rares et qui sont excellents.
Vos copains du VVF, vous avez toujours un lien bien sûr avec eux?
Ah ben, c'est sûr que, pour pas la nommer, Élise qui a repris mon poste, on a des contacts très fréquents. C'est vrai que c'est moi j'ai encore... Celui à qui j'ai pris le poste, entre guillemets, il y a 5 ans, est un ami et, à mon avis, restera un ami à jamais. Et j'espère que c'est un peu un bébé qu'on se transmet. En plus, c'est un poste qui a une particularité dans le monde des ONG parce que c'est sûrement celui qui est le plus à cheval entre le monde professionnel de la pêche et le monde purement environnemental. Donc c'est vrai qu'on se soutient, que c'est pas un boulot facile. Donc j'essaye d'aider Élise tant que je peux, même si j'ai beaucoup moins de temps pour le faire qu'au début. Et inversement, Élise soutient grandement le projet. Grâce à elle et grâce au WWF, la plateforme aussi a pu bénéficier de moyens au départ logistiques, au moins pour faire se réunir les pêcheurs. Mais rien que ça, c'était impossible au départ, parce qu'on n'avait même pas d'argent pour payer un billet de TGV. Et grâce au WWF, mais aussi à Greenpeace, il faut le dire, on a pu créer ces premières réunions et avoir des bureaux à Paris pour faire ces réunions physiques et donner l'envie et lancer un petit peu cette idée. Donc oui, des contacts sont fréquents, les soutiens sont des deux côtés d'ailleurs, parce que j'essaie de les appuyer aussi dans certains combats qu'ils peuvent avoir avec une partie de la profession avec laquelle je ne me retrouve pas du tout, et je les soutiens et je leur donne des arguments si je peux en avoir, que moi je peux récolter sur les quais. Donc non, j'ai pas coupé les ponts avec mon passé.
À partir de dimanche, ça y est, c'est travail de nuit.
Oui, alors il y a un nouveau projet, un nouveau bateau. Donc je vais travailler au moins l'été sur un tout petit bateau que je viens d'acquérir, essentiellement au filet. Et c'est assez paradoxal parce que le filet, je l'ai décrit dans le passé comme un des engins les moins durables qui soient, mais aussi parce que j'en connaissais pas la diversité d'emplois et d'utilisation. Et aujourd'hui, finalement, à bord, je vais avoir quasiment essentiellement des filets. Mais une technique qui, moi, me paraît aujourd'hui, maintenant, tout à fait intelligente et correspondant à ma philosophie. J'ai eu la chance de pouvoir la prendre avec l'ancien propriétaire qui m'a formé, qui m'a emmené longtemps. Ce qui compte, c'est la durée d'immersion du filet. Et là, grosso modo, le filet n'est dans l'eau qu'entre 20 minutes et 1 heure. Et ce qui fait que tout ce qui ressort, quand je relève mon filet, tout est vivant, et si je veux rejeter à l'eau n'importe quel spécimen, il repartira tranquillement. Il n'y a aucun rejet. Donc, malgré les idées que j'avais, parce que j'avais aussi vu des pratiques un petit peu dramatiques du filet, où on pouvait laisser 36-48 heures à l'eau des filets pour une espèce spécifique et finalement tout mettre à tout ce qui était capturé accidentellement, être mis à l'eau mais mort ou déjà mangé. Donc en fait, le filet est complexe, c'est divers, et j'en suis ravi. Et et j'entends résonner une petite phrase que beaucoup de pêcheurs m'avaient dit, il n'y a pas de mauvais engins, il y a des mauvaises pratiques, et je suis de plus en plus en train d'adhérer à cette philosophie.
C'était une interview réalisée par Pascal Marcaggi.